Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la bande dessinée. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Di Fiore et prise de son assurée ce soir par Pascal Baudin, réalisation Daniel Finot. Autour de moi, Catherine Robin, Joseph Gosne et Antoine Guillot pour parler de Les Cahiers d'Esther, volume 3 de Rial Satouf chez Alary, Nos Vacances de Plex Bolex chez Albin Michel Jeunesse et Variations de Blotch chez Dargo. Boris Pino aimerait bien que son ordinateur s'allume pour surveiller le fil Twitter et le fil Facebook pour donner à entendre les commentaires que vous pourriez faire sur notre sommaire. Ça y est, ça s'allume. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir. Des DVD, une diagonale, conversation avec Patrick Bouchain de Nicolas Delon et Julien Chopin. C'est distribué par Météor. Nous commençons avec le troisième tome des Cahiers d'Esther de Rial Satouf chez Alary Édition. Rappelons que chaque planche est prépubliée dans l'Obs et raconte une histoire, une anecdote réelle racontée au dessinateur par une jeune fille qui ne se prénomme pas Esther pour essayer de garder un peu son anonymat, ce qui réussit pour l'instant. Un recueil paraît chaque année, et ce sera le cas normalement jusqu'aux 18 ans de l'Esther de fiction. Dans ce volume 3, Esther rentre en 6e.
Trop de fierté pour avouer. Le fautif, hein. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. French kiss.
On va hélas pas laisser ce morceau en entier, c'est pas une émission de musique, donc on peut chanter la grande tristesse de Joseph Gosne. Mais ça, c'est la BO d'Esther, hein. C'est ce qu'elle écoute. En tout cas, ça fait partie des planches de cet album. Antoine Guillot, je vous ai déjà dit d'arrêter de mettre des comment on appelle ça déjà?
Des petits signés,
on dira. Des signés autocollants, parce que vous en mettez à toutes les pages. Donc je vois pas l'intérêt, en fait.
Ben, c'est à ça qu'on mesure l'intérêt d'un livre, c'est le nombre de signés qu'il a dedans, et on arrive plus ou moins...
Alors, il y a même nombre de signés que de pages, non?
Quasiment, et parfois il y en a plusieurs par page.
Ah. Vous voyez, donc ça se... Alors c'est quoi le code pour vous? Et ben, il y en a un qui est là au coin, ça veut dire bon, c'est toute la planche qui est
ça
bien.
Ça veut dire c'est toute la planche, et puis quand c'est sur le côté, c'est une case en particulier.
Ah. Je peux regarder ou pas?
Que j'ai retenu. Ben oui, je vous en prie, cher Arnaud.
On va faire ça au hasard et en direct. Voilà. Alors, une case, c'est celle-là qu'il faut regarder.
Alors voilà, alors là, c'est une case où Esther a accompagné sa mère à un cours de Zumba.
Et, normal.
Et donc, elle est arrivée dans une salle où il n'y avait que des filles de tous âges en surpoids, sauf moi et la prof, précise Esther. Et ça a commencé. Alors après, il y a un petit dessin, un petit texte en dessous dans la case qui dit « Sauf moi, la prof et ma mère, pardon ». Voilà. Et Alors, il y a beaucoup de repentir, d'ailleurs, dans ce livre, ce troisième tome. C'est ça qui est très passionnant. Alors, si j'ai mis cette case, c'est que c'est une case très physique où on voit Esther danser la Zumba, nous montrer, faire une démonstration de gestes, et on voit là toute la virtuosité graphique dans le mouvement de Riyad Satouf, parce qu'il est bon partout. Il est bon dans le dessin, c'est-à-dire de donner des attitudes, mais aussi de montrer ce que peut être un mouvement. Et puis, il est toujours excellent, mais ça, on le sait depuis longtemps, dans la restitution d'une langue, avec quelque chose qui est très drôle dedans, c'est qu'on est maintenant dans l'âge 3 d'Esther, et Esther réalise vraiment maintenant qu'elle est l'héroïne d'un feuilleton, alors qu'elle ne lit pas dans l'Obs parce que son père le reçoit, mais ça l'ennuie, elle n'y pense pas, c'est vrai qu'elle pense à autre chose, et puis de temps en temps, elle regarde le livre et elle fait des corrections. Elle explique, bon, c'est gentil, Riyad, de me faire parler bien, mais moi, je ne parle pas du tout comme ça. Donc, elle va reprendre des cases de l'épisode précédent, disant quand tu me fais dire je m'en fiche un peu, non, moi, je me dis je m'en balèque.
Voilà. Vous êtes arrêté là avant.
Non, mais elle explique d'ailleurs ce que ça veut dire, sans battre les couilles, pourquoi on peut le dire pour les filles aussi, pas seulement pour les garçons. Et il y a quelque chose comme ça qui est très passionnant, parce que non seulement on voit cette jeune fille grandir et réaliser certaines choses, être vraiment à ce moment où elle est entre l'enfance et la découverte de nouvelles choses, une maturité aussi qui arrive, pas surtout, c'est-à-dire qu'elle est complètement avec son frère qui a lui aussi beaucoup changé, qui maintenant est parti dans toutes les théories du complot, et il y a une façon de vivre dans un monde enchanté qui serait celui des Illuminati, des reptiliens et des photos truquées de Vladimir Poutine, qu'on prend pour agent comptant, mais parce que aussi ce sont des fables tout à fait plaisantes à voir. Et finalement, elle devient très consciente d'elle-même aussi, avec ce regard distancié qu'on peut avoir au moment où le corps change, où on sent qu'il se passe des choses dans sa tête. Et très souvent, elle va dire quelque chose qu'elle affirme, mais qu'elle va nuancer en disant lol après. Et Riyad Satouf fait un peu dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'il va montrer des histoires très drôles qui en même temps sont extrêmement sérieuses et formidablement documentées, en ethnologue qu'il est de ce qu'est une jeune fille préadolescente d'aujourd'hui, et on est sans arrêt sur ce registre, ce qui fait qu'on apprend beaucoup de choses sans jamais s'ennuyer. Je trouve ça extraordinaire.
Catherine Robin, votre regard sur Esther.
Au départ, je l'ai trouvée un peu bavarde, mais je pense que c'est lié au format qui est le condensé de toute une année de parution dans l'Obs, qui fait que pour les deux premiers, ça n'a même pas fait cet effet-là, mais là, je l'ai trouvée plus bavarde, ce qui n'est pas le cas, parce que les deux précédents tomes sont aussi bavards. Elle a toujours été bavarde, cette héroïne. Après, je rejoins Antoine sur tout ce que vous venez de dire, sur le fait que Riyad Satouf est un vrai scanner de son époque, il arrive à la fois à décrire l'adolescence d'Esther en 2017 avec tous les détails, voilà, la musique qu'on a écoutée tout à l'heure, le langage qui s'embalèque, B-A-L-E-K d'ailleurs, parce que c'est toujours très drôle de lire la façon dont Riyad Satouf écrit le langage oral, comme il le faisait d'ailleurs dans la vie secrète des jeunes. Donc voilà son époque à elle, à Esther, et en même temps il décrit aussi toute l'universalité de l'adolescence, puisque il y a des planches où on la voit raconter des histoires d'horreur dans le lit avec sa meilleure amie, on la voit décrire son amour pour un petit hamster russe, on la voit piquer du maquillage à sa mère, donc il a vraiment ce talent-là. Après, Riyad Satouf, je trouve qu'il y a aussi chez lui quelque chose de plus grinçant toujours, qui apparaît dans toutes ces séries, à la fois dans La vie secrète des jeunes, dans L'Arabe du futur aussi. Il est vraiment à double face, il a beaucoup de tendresse et en même temps un côté très très abrasif dans son regard sur le monde. Alors il pourra nous répondre que le monde est abrasif, mais quand même il a une façon de le regarder qui m'étonne un peu toujours et qui parfois d'ailleurs me met mal à l'aise, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à le lire d'un seul tenant comme ça, il a fallu le faire par petits bouts.
Alors c'est vrai que normalement on le fait en 52 fois, assez logiquement, toutes les semaines dans l'Obs. Bon, c'est vrai que c'est fait pour, hein, c'est vraiment, c'est le format, et la réunion en album, ça permet de les avoir chez soi et de faire cette belle collection. On va en reparler de cela, Joseph Gosne.
Plusieurs questions à mon sens en lisant ce livre. D'abord, effectivement, la question de l'endroit de la lecture, du contexte. Le lire dans l'Obs, pour moi, ça n'a jamais vraiment fonctionné. J'ai l'impression que c'est un cours d'explication des jeunes gens dans ce contexte-là. Mmh. Et je trouve que c'est un tout petit peu déplacé. En livre, je trouve ça un peu plus intéressant, mais je trouve que tout de même, notamment dans ce volume-là, et ça rejoint peut-être un peu ce que disait Catherine, il y en a un peu trop. Ça en fait un peu trop à mon sens, et je le trouve effectivement parfois un peu bavard. Je le trouve parfois, au contraire, extrêmement merveilleux, et lorsqu'il se détache de tout ce qui est le rapport direct à l'actualité, par exemple, je le trouve beaucoup plus fort et beaucoup plus touchant. Notamment, par exemple, il y a quatre pages qui se succèdent, et du coup on voit bien que la succession sur ces quatre pages qui portent sur l'écriture est justement se détache du contexte de la publication dans le magazine, et là ça marche mieux, où on est vraiment plongé dans la psyché de la jeune fille, dans ses désirs, ses émotions, ses fantasmes, notamment son fantasme d'écriture, de devenir éditrice. Et là, il développe quelque chose que je trouve beaucoup plus accessible, beaucoup plus touchant à mon sens. Ensuite, moi j'ai une vraie question sur l'auteur, en fait. Qui est l'auteur de ce livre? Il cite tout le temps Esther. Est-ce que je ne sais pas si cette Esther existe ou pas. J'ai envie de croire que oui, parfois j'ai envie de croire que non. Mais il y a une vraie interrogation sur ça. Et une fois cette question posée, il y a aussi finalement la question de du processus de création de ce livre, qui finalement relève, Antoine parlait d'ethnologie, mais ça relève vraiment de l'observation participante, c'est-à-dire il donne l'impression d'être plongé parmi ces jeunes gens, en tout cas auprès de cette jeune femme, et de restituer sa vie. Parfois, j'ai l'impression que c'est plutôt Riyad Satouf que je vois plonger dans ces jeunes gens plutôt que la vie réelle de ces jeunes gens. Je pense qu'il a mieux fonctionné sur le rendu de la vie des jeunes dans d'autres livres, et que là il y a quelque chose qui est entre deux, quelque chose de l'ordre un peu de quelqu'un qui regarde des jeunes un peu lui échapper, qui en est fasciné, mais qui n'en doute pas ça de manière très, enfin en tout cas moins assurée que dans le passé. Pour moi, en tout cas. Et c'est vrai que, par exemple, quand on a écouté le morceau, j'ai l'impression que, effectivement, c'est sans doute la musique de ces jeunes gens, mais j'ai l'impression qu'elle fascine Satouf plus qu'elle ne fascine ces jeunes gens. Donc c'est un peu les questions que ça me pose. Après, c'est une très bonne lecture. Et effectivement, moi, je lirais plutôt par à coup que dans une suite, parce que je pense que il se prend beaucoup comme ça. Et je trouve ensuite que graphiquement, c'est très très beau. C'est-à-dire que même on pourrait croire qu'il tourne un peu en rond parce que finalement il dessine toujours un peu de la même manière, mais en fait pas du tout. Et l'usage des couleurs, justement des aplats, des pages qui passent d'une couleur à l'autre, etc. Ça rend la chose très très pop, très très graphique et vraiment très 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 belle. Voilà.
Alors sur les réserves, dire que alors il se trouve que moi j'ai une fille qui a un an de plus qu'Esther, donc j'ai l'impression qu'elle est, si elle n'est pas réelle, elle est vraiment très 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 bien imitée, parce que j'ai l'impression de dire ce que je peux apercevoir ou savoir de la vie de ma propre fille. Je pense que c'est valable, en effet, sur un niveau générationnel, Black M compris, et langage compris, et centre d'intérêt compris. Mais pour avoir lu un ou deux entretiens donnés par Riyad Satouf, il explique que, selon lui, hein, c'est, bon, il faut le on le croit ou pas, il téléphone chaque semaine à cette Esther qui n'a pas forcément des choses à lui raconter en lui disant j'ai rien fait cette semaine, et que lui pose parfois des questions comme bon là c'était une année très politique, l'élection de Trump, l'élection présidentielle en France, donc elle répond aussi aux demandes parfois pour alimenter. Je pense que ça rejoint ce que vous disiez, Joseph Gauss, c'est-à-dire que c'est planches-là, où ces moments-là sont peut-être pas les plus investis par Esther, mais au contraire plus investis par Riyad Satouf, qui aimerait savoir ce que les jeunes pensent d'eux, et qu'il y a quelque chose qui est peut-être moins prenant, moins abrasif, du coup aussi, parce que bon, ça peut être drôle, parce que disons que elle n'a pas vu Macron venir, mais elle n'est pas la seule, Esther, puisqu'elle ne voit même pas la tête qu'il a, et que donc un inconnu n'a vraiment aucune chance. C'est drôle de dire ça maintenant, elle l'a fait en presque en temps réel.
Et il devient très beau une fois qu'il est élu.
Oui, forcément.
Au début, il n'a pas de visage. Oui,
c'est, forcément, bah, tout ça est parfaitement raccord là, avec la nation française pour une bonne part. Mais voilà, moi j'ai eu ce sentiment de balancement un petit peu en effet en lisant ce livre. Mais je trouve, moi j'aime beaucoup l'aventure éditoriale aussi. Savoir, est-ce que ça va continuer ? On n'en sait rien finalement, parce que si Esther existe, elle peut tout à fait dire stop.
Sortir de l'anonymat, vouloir sortir de l'anonymat.
Oui, c'est à un moment, ça pose la question de l'auteur. C'est-à-dire, qui est cette Esther quand même ?
Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui posent cette question-là de la même façon.
Mais sauf que Riyad Sattouf vient quand même de ce qui à un moment était très important dans la bande dessinée, c'est-à-dire la bande dessinée d'auteur qui s'est affirmée en tant que telle, et que là, il restitue l'histoire de quelqu'un, et que ce quelqu'un ne signe pas non plus sur la couverture du livre.
Il y a beaucoup de cinéastes dont on pourrait dire la même chose.
Sûrement,
avec
de
jeunes femmes.
Mais là, on parle vraiment de ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il se situe aussi dans une autre tradition de la bande dessinée, une petite tradition en tout cas, qui avait été inventée par l'Américain Frank King, qui consiste à suivre ces personnages et à les voir vieillir. Depuis, on avait fait ça dans les années 90 avec Monsieur Jean. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. C'est juste qu'effectivement, à un moment, on se demande si cette Esther va se révéler, et la question est plutôt intéressante.
Ça sera peut-être une de Gratien un séjour. On n'est pas à l'abri.
On ne sait jamais. Peut-être qu'il en fera un film.
Alors oui, elle a prévu le casting du film. C'est très drôle parce que j'imagine que comme moi, vous connaissez pas 80% des acteurs qu'elle souhaite voir tourner dans le film, parce que ce sont des idoles de jeunes gens pour la plupart.
Alors, le papa idéal, c'est Johnny Depp.
Oui, pour ça, ça va. C'est parce que c'est le papa qu'on le connaît.
Non, mais en l'occurrence, l'adaptation a lieu puisque Canal Plus va faire des vignettes de 2 minutes à partir des animées à partir des cahiers d'Esther. Mais justement, la question de cette Esther.
Est-ce qu'on est inquiet ou pas?
On accorde toujours le bénéfice du doute. Ils se sont posé beaucoup de questions sur la voix, notamment. Ils ont enregistré la vraie voix d'Esther pour la faire réinterpréter par une enfant du même âge. Donc il y a un certain soin quand même qui est apporté à cette série.
J'imagine.
On sera assez curieux.
Il y a déjà des financiers en jeu, éventuellement.
Non, mais c'est surtout que si Riyad Sattouf est derrière, il va y avoir un gros soin, parce que c'est un grand maniaque. Et c'est lui-même qui fait la maquette de son livre. Et ça fait un très, très beau livre. D'ailleurs, vous le précisiez sur l'aspect graphique, mais l'objet lui-même est vraiment un bel objet. Sur la question, Esther existe-t-elle? C'est vrai, elle existe pour moi en tant qu'objet graphique. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le personnage lui-même existe. J'ai le même plaisir et la même excitation à la suivre. Évoluer graphiquement comme d'autres l'ont fait, et comme au cinéma, Richard Linklater l'avait fait avec Boyhood, par exemple. Il y a une vraie émotion d'un personnage qu'on connaît depuis l'enfance et qu'on voit évoluer. Et j'ai été aussi sensible, pour d'autres raisons peut-être, aux 4 pages dont vous parliez sur l'écriture, parce que là, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle commence à se raconter elle-même, et qu'elle raconte elle-même les fantasmes qui ne sont pas seulement d'écriture, mais c'est une histoire de vampire, et où elle parle d'elle de manière incroyable, que souligne Sattouf sans en faire une exégèse, mais il y a des cases où elle regarde étrangement son père parce qu'elle voudrait lui mordre le cou, ou où elle se retrouve dans une pièce parce qu'elle a dévoré une voisine couverte de sang partout. Quand on connaît toute la symbolique du vampirisme et par rapport à une jeune fille qui se découvre peu à peu devenir femme, c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant sans que ce soit jamais lourd. C'est-à-dire que c'est fait par des objets littéraires et graphiques, et ça c'est du grand talent, je trouve.
Encore un mot, Catherine Robin ?
Non, je voulais juste rajouter que, comme vous le disiez, en commentant le choix du casting pour le film, c'est vraiment une bande dessinée qui permet aux parents de regarder par le trou de la serrure dans la vie de leurs ados, et ça c'est et par Riyad Sattouf, c'est très bien fait. Et la deuxième chose, c'est aussi le personnage du frère que j'aimais beaucoup, qui était très bon. Là, il est aussi présent avec son histoire de complot et d'Illuminati, mais j'aimais beaucoup.
Il commence à raisonner avec son père. Il y a une scène de voiture absolument extraordinaire, où il accule son père devant ses contradictions.
Et voilà, et j'aimais bien leur. Et là, ils sont moins en conflit l'un l'autre, ils sont plus distants l'un de l'autre. Dans les précédents albums, ils étaient plus en présence l'un de l'autre, et ça manque un tout petit peu dans cet album-ci.
On peut pas truquer la vie et la vraie vie de la vraie Esther, peut-être. Joseph Gosse.
Juste dire que je crois que ça se lit aussi très bien en parallèle avec l'Arabe du futur. Et que les deux vont bien ensemble et construisent une œuvre, en fait, qui n'est pas juste soit l'un soit l'autre, mais les deux ensemble. Je crois que Sattouf réussit vraiment là sur ces deux pôles.
Bon, et puis le succès, j'imagine, ne se dément pas, parce que les deux premiers volumes, c'est 200 000 albums vendus.
Oui, j'ai pas le chiffre, mais c'est un succès éditorial extraordinaire, comme l'Arabe du futur, d'ailleurs.
Ouais. Bon. Ben voilà, tout ce que touche.
C'est mérité.
Riyad Sattouf se transforme en or. Les Cahiers d'Esther, volume 3, publié chez Alary. À suivre dans la dispute Blex, Bolex et Blutch.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette émission consacrée ce jeudi soir à la bande dessinée avec un nouvel album jeunesse pour Blex Bolex intitulé Nos Vacances, qui s'intéresse lui aussi à une jeune fille plus jeune hein, qu'Esther, qui va passer, comme son titre l'indique, ses vacances chez un homme âgé qu'on imagine être son grand-père. Imagine, hein, on n'est sûr de rien, on va en parler. Mais il y a un autre invité qui va quand même gâcher le plaisir de la petite fille, hein. C'est un éléphanto, quoi de plus normal. L'ouvrage est publié chez Albin Michel Jeunesse. D'éléphant rose, ça, c'était le petit éléphanto rose, c'était dans le livre, le très beau livre de Martine Sutter, et en plus il était plus récent et bien vivant. Là, c'est un autre genre d'éléphant qu'on va rencontrer, mais il faut d'abord expliquer un peu formellement ce qu'on a entre les mains, Catherine Robin, quand on a Nos Vacances de Blex Bolex entre les mains.
Alors, on a un album vraiment magnifique. qui est un album sans paroles. Je crois qu'il a, il n'a pas été fait à la sérigraphie, contrairement à ce qu'il faisait par le passé, Blex Bolex, et il l'a fait cette fois à la palette graphique, mais il a su garder le caractère désuet et énigmatique de sa marque de fabrique. Donc pas de texte, pas de ligne, ça aussi c'est quelque chose qui fait sa marque de fabrique, puisqu'il a beaucoup... penser, théoriser la déconstruction de la ligne claire et donc travailler. Et surtout, ce qui est très intéressant dans cet album, c'est sa construction avec des vignettes à l'intérieur même des dessins. J'ai vu une interview dans laquelle il disait s'être inspiré de Richard McGuire avec l'album Ici qui avait été couronné à Angoulême il y a quelques années, qui jouait justement de ces vignettes, de l'insertion de ces vignettes pour transporter l'action dans d'autres d'une époque à une autre. Bon bah lui il fait un peu pareil avec l'action elle-même, donc ça crée vraiment une grammaire très particulière au livre et à la narration. Sur le dessin lui-même, c'est magnifique dans le sens aussi où il nous plonge dans une espèce d'ambiance années 50, dans les vêtements, dans les décors, y compris d'ailleurs même le papier un peu granuleux. Voilà, mais sauf qu'il joue aussi avec certains anachronismes, puisque cette petite fille qui... Parce que j'ai pas du tout parlé de l'histoire, pardon.
Ouais, j'en ai dit deux mots, hein, les vacances.
Mais voilà, c'est une petite fille qui est donc chez peut-être son grand-père, on imagine. Voilà, va arriver d'un mauvais œil un petit éléphanto et va lui faire mauvais accueil, tout simplement. Mais j'étais sur les anachronismes du dessin, puisque donc on la voit jouer à la PlayStation, mais dans un décor vraiment 50s. On voit des jeunes gens à la fête du village avec des maillots de basket NBA, un peu. Enfin bon, bref, ça crée des décalages comme ça. Mais et donc je pars un peu dans tous les sens là.
Mais parce que le livre est riche et je vous ai demandé de le décrire, ce qui n'était pas très sympathique de ma part.
La mission la plus évidente.
C'est vrai, mais vous en tirez très bien.
Et
Catherine.
En fait, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un livre qui marque. Je ne sais pas si vous avez dit à Arnaud qu'il avait eu le prix.
J'allais le dire un peu plus tard.
Pardon,
Pépite d'or.
Voilà,
au salon de Montreuil.
Au salon de Montreuil, ils ne se sont pas trompés, parce que je pense typiquement que ce livre peut être un livre qui reste. Pour nous, les adultes, c'est un livre qui est empreint d'une grande nostalgie, mais pour les plus jeunes qui vont le découvrir, Je pense que c'est un livre dans lequel on se plonge et on se replonge et qui peut, par la force de son dessin, par la force de sa narration, devenir un livre qui reste comme un comme une sorte d'endroit chaleureux, plein d'aventures, voilà qu'on a
inquiétant aussi.
Et inquiétant, j'allais y venir, mais parce que finalement cette petite fille qui va assez maltraiter cet éléphant, c'est aussi une façon, une histoire d'une gosse pas sage, une gosse pas qui fait des choses pas politiquement correctes avec ce. Donc c'est finalement l'enfance, c'est l'apprentissage de la cruauté, de l'intolérance, de la toute-puissance. On la voit quand elle rencontre un petit garçon dans le train jouer carrément avec des planètes, un système solaire. Voilà, c'est ça parle aussi de la culpabilité au moment où elle le laisse partir, enfin où il part et puis qu'elle va à la toute fin peut-être essayer de lui dire au revoir. On ne sait pas. En tout cas, ça, c'est un endroit. Enfin, vraiment, je le dis à dessein, l'endroit. Je trouve que c'est un endroit vraiment chaleureux et qui est plein d'émotions qui font grandir. Et c'est à ça que servent les bons livres pour enfants.
Joseph Gosne, sur ces vacances de Blex Bolex.
Sur ce chef-d'œuvre, vous voulez dire?
C'est vous qui le dites.
Non, je suis assez d'accord avec l'idée que ce livre est un territoire. Puisqu'effectivement, on s'y promène beaucoup. On peut même en esquiver la narration, ou alors en inventer une un peu, enfin celle que l'on souhaite en fait, y voir de la cruauté ou autre chose. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est de voir surtout avec ce nouveau livre l'évolution de Blex Bolex, qui effectivement a commencé il y a une vingtaine d'années en faisant des fanzines qui à l'époque étaient sérigraphiés. Il a petit à petit, il venait plutôt du punk et du gravezine, et il a petit à petit intégré l'univers des livres jeunesse. Il y a une dizaine d'années, il a fait un livre qui avait eu beaucoup de prix, je crois, qui s'appelait L'Imagier des gens.
Meilleur livre du monde.
Meilleur livre du monde, tout à fait. Voilà, mais qui vient d'être supplanté par celui-là.
C'est pas mal. Non mais c'était un prix qu'il avait reçu.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Le plus beau livre du monde.
Bon. Ça place la barre assez haut.
Voilà. Et il a souvent, ces dernières années, il a souvent fait le va-et-vient entre quelques livres un peu plus confidentiels que ses livres jeunesse, mais et dans lesquels on sentait bien qu'il tentait de la narration. Il y avait notamment des livres chez Cornelius. Édition Cornelius. Ici, ce qui effectivement est très frappant, c'est un livre d'images. C'est quasiment, enfin, il n'y a pas du tout de paroles. Donc, on s'y plonge et on est plongé dans une matière qui est effectivement celle à la fois du papier, mais aussi la matière des souvenirs, qui sont ceux des lectures, effectivement, puisqu'on voit des personnages qui rappellent parfois Tintin, d'autres choses de la ligne claire. L'éléphant, pour moi, me rappelle évidemment Babar. Donc, ça me rappelle aussi Martine. Par cette jeune fille, forcément. Donc on est dans une espèce de Martine un peu psychédélique, un peu punk, un peu étrange. Mais ce qui me touche le plus dans le livre, au-delà de son format, qui est comme ça un format petit, qu'on peut vraiment s'approprier, prendre avec soi, c'est que c'est un livre qui fait travailler les yeux. Ça fait vraiment travailler vos yeux, ça vous force à comprendre, à aller chercher des choses et à faire des correspondances. Vraiment à partir uniquement de ce que vous voyez. Et effectivement, la référence au livre de Richard Maguire est assez évidente. Il le dit lui-même. Mais Maguire se servait de ces cases mises les unes dans les autres pour montrer le déplacement du temps dans un même endroit. Là, c'est plutôt la façon dont les choses se superposent, pas forcément dans un même endroit, mais plutôt dans nos souvenirs et dans notre regard. Et c'est vrai que finalement, ce jeu entre une PlayStation, des vieilles images de livres des années 30, 40, 50, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est une superposition d'images, de souvenirs et d'envie d'un peu de tout lier. Pour moi, c'est quasi j'exagère un peu, mais c'est quasiment un flux Instagram, c'est-à-dire que vous voyez toutes ces images qui se succèdent, et chez lui il n'y a pas besoin de commentaires, il n'y a pas besoin de hashtag, et c'est à vos yeux vraiment de trouver la fertilité.
Antoine Guillot.
Ben, je partage complètement tout ce qui a été dit, et d'autant que c'est un livre qui ne fait pas seulement travailler les yeux, mais il fait travailler à peu près tous les sens, parce que on a dit, il y a ce toucher granuleux du livre. Quand vous l'ouvrez, il sent bon, C'est-à-dire qu'il sent cette encre et qui sent bon et qui a cette odeur du suranné aussi, donc qui nous plonge comme ça dans quelque chose de très proustien. Vous avez une expérience synesthésique comme ça où tout est mis en œuvre et surtout c'est l'émotion qui est mise en œuvre de façon que j'ai rarement vue dans un livre de façon aussi subtile, précisément parce qu'on peut ne pas la ressentir, on peut en ressentir une autre. Je crois qu'on a tous à peu près notre lecture. Je pense à un moment où ce vieil homme va dans le grenier pour chercher des masques, pour essayer que cette petite fille et ce petit éléphanteau puissent faire quelque chose ensemble et jouer, et puis il va tomber sur une robe. Il a un regard qui là encore n'est en rien spécifié. Enfin, il y a un effet coulé de chauffe chez le lecteur, c'est-à-dire qu'on se dit il voit une robe et peut-être qu'il pense à sa femme qui est morte, peut-être qu'il pense à autre chose. Et ça marche beaucoup sur l'imaginaire, y compris chez cette petite fille, parce que c'est un grand livre sur le fantasme aussi, le fantasme de l'amitié qui ne correspond pas à ce qu'on a. Et il y a ce qu'on voudrait, il y a ce rêve d'une amitié cosmique avec ce petit garçon qui est tout à fait phénoménal. Et il y a la possibilité effectivement de ne pas être quelqu'un de bien. C'est-à-dire que il n'y a aucun regard, non seulement de dire c'est pas bien ce qu'elle fait, ou regardez comme c'est génial, elle fait des choses pas possibles, avec ce plaisir qu'on a aussi de voir des garnements. On accompagne simplement quelqu'un qui va pas être très fier de ce qu'elle fait, qui va pouvoir regretter, et puis qui en même temps, tout en regrettant et en voulant accompagner effectivement une dernière fois ce petit éléphanteau, finalement, elle va voir un ruban dans un arbre et c'est pas grave, elle va grimper dessus. Et il y a cette insouciance de l'enfance qui, tout d'un coup, est confrontée aussi par moments aux actes et à ce qu'elle fait. Et tout ce que je vous dis, c'est ma projection dedans. Et il y a autant de lectures possibles. Une lecture possible aussi, c'est de prendre l'expression anglaise qui dit « elephant in the room », c'est-à-dire la chose dont on ne veut pas parler, le non-dit, ce qui est tellement énorme que personne n'arrive à en parler. Et on peut se construire complètement une autre histoire que fait cette petite fille chez ce vieil homme. Pourquoi amène-t-il un éléphant avec toutes les symboliques que ça peut avoir? C'est un livre qui est beaucoup plus noir, complexe, pervers et enfantin et charmant tout à la fois. C'est assez extraordinaire, d'autant qu'on peut nous le lire comme ça comme adulte, mais un enfant dès 6 ans peut se projeter dedans comme il le faisait dans Romance, ce conte de fées complètement déstructuré qui fonctionnait par accumulation et qu'avait fait auparavant Blex Bollex. C'est un livre presque à relire à chaque âge, et j'envie les enfants qui vont le découvrir à 6 ans et qui le reliront quand ils en auront 20, 40, 50 et qui retrouveront à la fois d'autres lectures et les émotions qu'ils avaient eues en le découvrant à 6 ans.
À 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, moi j'aimerais bien effectivement l'offrir à des enfants, cadeau à faire absolument. Je ne suis pas sûr qu'on s'y sente très bien. Moi, contrairement à Donald Trump, je n'aime pas qu'on fasse du mal aux éléphants. Donc j'étais un peu traumatisé par cette lecture, mais sérieusement, hein, parce que je ne comprenais pas. J'aurais tellement aimé avoir un copain éléphanto que l'accueil qu'elle lui réserve était pour moi vraiment très cruel. Oui, mais il y a la solitude de l'éléphanto qui est quand même... on n'a jamais aussi bien montré ça que ce que fait Blex Bollex ici quand l'éléphanto reste assis dans son coin. Enfin, c'est absolument terrible. On ne peut y projeter évidemment absolument ce qu'on voit, et on peut le lire très littéralement. Je pense c'est pour ça aussi que je disais 6 ans, 7 ans, 8 ans, parce que j'imagine qu'on peut le lire très différemment. Catherine Robin ?
Il y a aussi un rapport au temps qui est intéressant dans le livre, qui vraiment, Antoine, c'est ce que vous disiez à l'instant sur la puissance du dessin et donc des émotions liées à ce dessin. Et je trouve que il y a dans ces dessins le fait qu'il nous propose un été comme ça. Cette petite fille va chez ce personnage, ce vieil homme.
Ce vieux dégueulasse.
C'est une lecture possible. C'est là que je parlais de l'éléphant dans le texte.
On va lancer plein de pistes.
Pardon, non, Catherine. Et donc la lumière, l'été, le monde est gigantesque, les journées n'en finissent pas, et ça, il le montre aussi très très bien. Et ça, encore une fois, nos enfants le découvrent et le liront à leurs enfants. Enfin, ça fait vraiment cet effet-là, ce livre. Quand je disais que c'était un livre qui va marquer, c'est vraiment ça. Il va prendre la place dans nos bibliothèques du livre qui va rester.
C'est aussi un merveilleux livre d'images uniquement, c'est-à-dire on peut très bien se contenter de regarder les images, la trame, les couleurs, et on peut vraiment s'y plonger comme ça d'une image à l'autre, de faire des allers-retours. Et je voudrais juste dire que pour avoir regardé récemment beaucoup de livres jeunesse, justement, on voit pas mal la patte de Blex Bollex apparaître, notamment on voit bien qu'il imaginait des gens d'il y a 10 ans, a pas mal marqué, et qu'il y en a plusieurs quand même, et que c'est du coup c'est devenu un auteur assez influent au-delà de la beauté de ce livre-là.
Dernier mot, Antoine Guillot, sur nos vacances de Blex Bolex.
Alors, ça très sincèrement, mais on garde des images comme ça. Moi, c'est un livre, oui, encore une fois, qui m'habite, quoi. Comme j'ai vécu dans ce monde-là, et maintenant, il vit en moi.
Bon. Pépite d'or du Salon de Montreuil 2017, ô combien mérité, vraie pépite d'or. Et c'est l'heure d'annoncer d'autres prix. Antoine Guillot,
oui,
vous avez occupé quel poste dans cette association de malfaiteurs qui est l'ACBD?
J'en reste l'association des critiques et journalistes de bande dessinée.
Oui, il n'y a pas le J, donc ACBD. Voilà,
ça aurait fait ACJBD, ça aurait été un peu compliqué. Mais voilà, donc ce sont 95 journalistes et critiques de bande dessinée qui en parlent régulièrement sur tous les supports et qui a dévoilé deux prix. Le prix Jeunesse, justement, à l'occasion du Salon Montreuil, ça sera remis samedi à 17h. De Montreuil, on vous attend nombreux, qui a été remis à...
à
une bande dessinée assez extraordinaire qui s'appelle Imbattable. Imbattable de Pascal Jousselin chez Dupuis, qui est Loubapo, les exercices de déconstruction de la planche mis à la portée de tous et en particulier des enfants. C'est très drôle. Et puis on a décerné aussi le grand prix de la critique ACBD qui récompense un livre, un des 4000 livres parus dans l'année. C'est un livre dont on avait dit le plus grand bien dans cette émission. C'est La Terre des Fils de JP, paru chez Futuropolis, et on en est ravi de ce prix.
Non, mais le samedi, avant 14h, il faut faire autre chose, non, Antoine Guillot?
Et le samedi, à 14h, il faudra écouter, effectivement, puisque je fais ma publicité. plan large avec la redécouverte du plus grand des méconnus des cinéastes américains, c'est Preston Sturges, génial Preston Sturges.
Vous ne faites pas un truc dimanche dans la salle commerciale, non? Vous n'avez pas une autre attention
à faire, une animation? Il faudra me reconnaître, je serai masqué.
Vous ferez vos courses dans quelle rue? Joseph, une petite auto-promo?
Eh bien, un dossier bande dessinée dans le Gardia qui sort vendredi.
Bon, très bien, Catherine.
Aussi, Esther, retrouvez Esther dans le L vendredi.
Bon, Boris Pino, parce que les internautes ne sont pas fameux. On pourra vous voir ce week-end en concert, je crois. C'est pas prévu. Non, vous avez un truc à dire sur Twitter? Ils sont calmes, hein, nos auditeurs?
Oui,
ils sont tristes ce soir.
Je crois qu'ils se réservent pour le blutch.
Oui, mais on va 200 000 albums de vendus à chaque fois pour Riyad Satouf et les Cahiers d'Esther. Et aucun commentaire, ils sont timides. Ne soyez pas si timides.
Blex Bolex, ils peuvent pas en parler parce qu'il faut préciser que le livre sort demain.
Ah bah bravo.
Le 1er décembre.
Non, je crois que ça a été avancé, contrairement à ce que dit le dossier de presse.
Ah bah vous en savez plus que moi, alors.
Peut-être dans les librairies vérifier de façon complètement compulsive.
Oui.
Bon, nos vacances est peut-être sorti, sinon au pire ce sera demain matin. Ce livre de Blex Bolex, publié chez Albin Michel Jeunesse.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Après les réclames, le troisième sujet de cette dispute, bande dessinée avec variation au pluriel, Blotch, qui explique le processus de création de cet album à part, un album de reprise, puisqu'il s'agit de rejouer 30 planches d'albums existants, comme un peintre travaille un chef-d'œuvre qui l'a précédé. Voilà, une revisitation par John Coltrane d'un morceau de Rodgers et Hammerstein, comme vous voulez.
My Favorite Things.
My Favorite Things. Blotch, variation. Tiens, description de l'objet, Joseph Gosne.
Description de l'objet, un livre très grand format avec un portrait d'Obélix, comme ça, très frontal, gros nez, avec juste simplement marqué Blotch Variation.
Antoine Guillot fait la démonstratrice. Hein. Alors, c'est le quatrième de couverture.
Personnellement, je trouve que l'objet lui-même n'est pas très réussi.
C'est trop grand.
Il est trop grand.
Où est-ce qu'on va le ranger?
Il est un peu grand.
Il faut que pas de le mettre à côté
surtout,
de Bolex.
Et surtout, hein. je trouve que la couverture ne rend pas du tout justice à l'intérieur. Je trouve, pour le coup, c'est vraiment raté. Et d'autant plus raté que j'ai l'impression que les œuvres auxquelles Blotch s'attaque sont toutes des œuvres qui viennent d'un domaine plutôt de la bande dessinée populaire, assez populaire, et que d'un coup, ce livre donne à son travail à lui une valeur un peu le place un peu au-dessus, même si effectivement dans le format comme ça avec le dos toilé, on revient à ce qu'ont pu être certains formats de bande dessinée populaire des années 40 ou 50. Mais là, c'est un peu trop grand et la couverture tombe un peu à côté, je trouve. Mais cela étant, intéressons-nous à ce qu'il y a à l'intérieur. Absolument. Et ce qu'il y a à l'intérieur est assez formidable. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est vraiment très beau. Il s'attaque vraiment à ce qu'on imagine être son Panthéon, à des choses qui sont plutôt inattaquables, refaire des planches d'Hergé, refaire le Jerry Spring de JG, refaire du Lucky Luke. Ça semblait être un peu un défi assez casse-gueule, et sauf qu'il y parvient en mettant beaucoup de, à la fois son style, mais aussi beaucoup de liberté, en prenant beaucoup de liberté. Et c'est une liberté qui est plutôt dissimulée, je trouve, et c'est ça qui fonctionne bien. C'est-à-dire que quand il reprend une planche de Tintin, quand on va chercher dans l'original, on voit que ce n'est pas une planche, mais que c'est une suite de cases qui font suite et qui font sens, et qu'il recompose en une planche, comme si c'était effectivement une variation sur ce qu'il avait lu, ou en tout cas comme si c'était ses souvenirs qui étaient remis un peu en boîte. Et ça c'est assez beau. Et une fois qu'on a compris ça, on commence à se demander s'il n'y a pas une trame entre toutes ces planches-là qui sont reprises. Moi, je l'ai pas vraiment vu, j'ai essayé de la chercher, mais je l'ai pas vu. Mais en tout cas, il y a comme ça des sauts de l'un à l'autre. Et j'aime bien ce qu'il met. C'est-à-dire, parfois, il y a des personnages de la planète des singes qui sont dans du gilon, je crois bien, qui n'y étaient évidemment pas. Donc il y a quelque chose comme ça qui fonctionne bien, qui est très très beau. Ensuite, quand on connaît l'œuvre de Blotch, ça pose une vraie question, et notamment par rapport à quelque chose qu'il a pu me dire il y a très longtemps dans une interview, je crois, où je crois que c'est Gottlieb qui lui avait dit à ses débuts, tu veux faire de la bande dessinée, tu choisis un personnage et tu le suis. Et Blotch a toujours refusé de faire ça. Et là, dans ce livre, c'est comme si d'un coup il s'attaquait au personnage des autres, au personnage que lui n'a jamais voulu ou réussi à créer. Parce que finalement, quand on regarde toute son œuvre, on se rend compte que à chaque fois qu'il a eu un personnage, par exemple le petit Christian, finalement il l'a très vite mis de côté, et que chacun de ses livres aurait pu comporter des personnages, mais que ce ne sont finalement que des romans graphiques qui se tiennent chacun, et comme s'ils passaient de l'un à l'autre. Et là, d'un coup, on a l'impression qu'il essaye de s'attaquer à ça, à cette question-là, la question du personnage, et essayer de peut-être de s'en extraire ou de se l'approprier davantage, et que ça dépasse le simple jeu avec son côté fan, ou en tout cas son respect pour ses maîtres. J'ai l'impression que ça pose une question qui est celle de où est-ce que cet auteur-là, qui a quand même une longue carrière derrière lui, mais qui n'est quand même pas non plus un auteur très très populaire, où est-ce qu'il en est avec ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette idée de la bande dessinée populaire, et comment on s'en débarrasse, ou comment finalement on vit avec? Et je n'ai pas l'impression, le livre ne résout aucune de ces questions, mais il les pose, et j'ai l'impression que peut-être, parce que je crois qu'il a un projet à venir qui est une reprise de Tif et Tondu, et que là peut-être que ça va continuer ou trouver des réponses.
Oui, parce que l'une des questions qu'on se pose, enfin que moi je me suis posé en ouvrant ce livre de Blotch, c'est à qui ça s'adresse. Alors, certes à vous, spécialiste, mais au-delà, Antoine Guillot, à qui s'adresse ce livre de Blotch?
Mais c'est une question que je me suis posée, effectivement, d'autant que, pour continuer la description de l'objet, les planches apparaissent une page sur deux. C'est-à-dire qu'en regard, à chaque fois, il y a une vaste planche vide, blanche, comme ça, sur lesquelles est écrit juste la source, les auteurs d'origine, le titre du livre et chez qui ça a été édité, en quelle année. Et alors, cette planche blanche fonctionne, j'imagine, de façon différente selon qu'on a lu ou pas. Selon qu'on peut aller chercher dans sa bibliothèque, parce qu'on a sont d'ailleurs des bandes dessinées pour la plupart qui sont de vaste diffusion, enfin que vous pouvez tout à fait retrouver. Alors vous aurez envie ou pas d'aller
Gaston Achille Talon, d'aller
comparer, ou alors vous jouez cette page blanche qui va être une page fantôme et ça joue avec vos propres souvenirs. Personnellement, j'ai pris cette démarche là, c'est-à-dire je ne suis pas allé comparer, sauf il y a maintenant donc une heure juste avant l'émission, me disant tiens, est-ce que cette planche-là, en l'occurrence, je suis allé regarder la planche d'Angel Face qui est remakée, refaite dedans, mais c'est presque un remake, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée avec la permutation. Alors ici, la permutation est de deux, enfin au moins de trois genres, c'est-à-dire qu'on va inverser le genre des personnages. Ce ne sont pas deux hommes qui se battent, c'est un homme et une femme. Un des personnages qui était blanc, qui est Blueberry, devient une noire dedans, et effectivement, il recompose la planche, puisqu'il prend deux planches, deux demi-planches, il n'en refait plus qu'une, mais pas dans l'ordre de parution, et il remélange tout ça. Et en voyant ça, je me dis, mais c'est pas très intéressant, en fait. C'est exactement le principe de quand on entend un air de jazz, qu'on entend Coltrane, on va pas aller écouter l'air d'origine en se disant qu'est-ce qu'il a fait comme variation, sauf si on est un musicologue, en se disant, ah tiens, là c'est intéressant, il a mis un mode mineur, il a changé trois accords, il a rajouté deux mesures, il a mis un rythme qui n'était pas celui d'origine. On peut aussi être emporté par l'objet en lui-même, c'est-à-dire prendre la narration elle-même. Alors, il y en a qui sont tellement connus qu'on se dit, ah bah oui, effectivement, il a interverti Gaston et Monsieur de Messmaker, ça permet de voir Gaston dedans, mais on a une unicité graphique finalement dedans qui est en soi-même passionnante. L'objet est très beau. D'ailleurs, j'engage les gens qui passent par Paris ou qui sont parisiens à aller voir les planches exposées à la Galerie Martel en ce moment, parce que on voit des variations sur les variations. Il y a certaines, c'est jusqu'au 9 décembre.
Ah bon, j'avais une mauvaise date alors, parce que je croyais que c'était fini.
Non, mais c'est encore en cours. Chez Barbier et Maton, chez Barbier et Maton, on a tellement l'habitude que ce soit eux qui fassent ces expositions, mais on voit que certaines planches ont été faites plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a de la variation sur la variation avec des nuances et avec ce qui est pour moi un grand livre de la crise, mais Blutch a toujours été en crise, se met en crise en permanence.
Tous ces livres sont des livres
c'est-à-dire
de crise.
Que ce sont tous des livres de crise et il y a des crises entre les livres et chaque livre répond à une crise engendrée par la précédente et souvent son trait ne ressemble pas à ce qu'il a fait avant. Et bizarrement, en s'attaquant à des dessinateurs aussi divers que tous ceux qui sont dedans, il atteint une sorte d'unicité du trait dans sa manière de les tirer à lui et de trouver des solutions graphiques parce qu'il ne dessine pas la mer de la même manière que Uderzo, il ne dessine pas le psychédélisme de la même manière que Jacobs quand le professeur Mortimer va voyager dans le temps, et tout ça donne une matière que je trouve extrêmement belle à regarder. Après, pour répondre à cette question de Tif et Tondu, ce livre est arrivé à un moment où justement il n'arrivait plus à faire ce Tif et Tondu, qui est un projet qu'il a depuis des années. On nous annonce qu'il est en train de travailler sur un Tif et Tondu, et ce Tif et Tondu n'avançait pas, et sans doute ce livre sera une réponse, et peut-être qu'il fera que le Tif et Tondu se fera ou pas, en tout cas il se fera certainement d'une manière très différente.
Plein d'infos. Catherine Robin, sur ces variations de Blutch.
Eh ben Arnaud, vous demandiez à qui s'adressaient ces variations. Je ne sais pas s'ils s'adressent aux femmes. Parce que, en ce qui me concerne, il y a pas mal de références de l'album, de références à des planches originales que je ne connaissais pas forcément. Je n'ai pas lu, je connais les Pieds Nickelés, mais sans les avoir lus dans leur ensemble, ni Michel Vaillant, ni Jerry Springs.
J'ai donc lu tous les Pieds Nickelés.
Voilà, donc c'est peut-être une question d'époque, de génération, mais aussi de sexe, je pense. Parce que pour moi, là, cette BD, c'est quand même une BD de bonhomme. Mmh. C'est une BD d'adolescent. Je veux dire, il y a quelques femmes dedans, mais la plupart des femmes, quand elles y sont, elles sont nues. Généralement, dedans, on voit bien leurs fesses. Généralement, leurs fesses sont entre les mains d'un homme, parfois d'une femme. Mais en tout cas, c'est un album qui est vraiment gonflé à la testostérone. C'est probablement une question d'époque aussi. Il a fait le choix aussi de ne pas adapter, de ne pas faire de variations sur des contemporains. Je crois qu'il est né en 67. C'est le choix qu'il a fait. Même en termes d'auteur, il n'y a que Claire Bretéché qui apparaît dans une planche qui est très chouette. Mais aussi à cette époque, elles n'étaient pas nombreuses. Il y avait Florence Sestac. Claire Montelier, et, voilà. Donc,
Chantal Montelier.
Donc voilà, je constate cela sans forcément le déplorer. Hein, je veux pas faire la police de la. Mais bon, voilà, ça montre quand même combien la bande dessinée a changé depuis l'adolescence de Blutch. Et ça rappelle aussi l'exercice qu'il avait fait. Je crois que c'était la première fois qu'il signait chez Dargo avec son pour en finir avec le cinéma, où il y avait un long chapitre aussi dans cet album sur les femmes, sur le regard dur, sur les femmes au cinéma, sur cette difficulté à vieillir. Bon, bah là, les femmes qu'il revisite entre guillemets. Pardon, ce sont des femmes de papier, donc qui ne vieillissent jamais et qui peuvent rester ad vitam aeternam l'objet du désir des hommes, et parce que c'est souvent comme ça qu'elles sont quand même présentées, hein, toutes. Voilà. Donc voilà, il y a des planches qui m'ont fait rire, hein, y compris des planches où les filles sont nues, mais c'est pas tout à fait.
L'impression générale. Un peu déplaisante,
ouais,
quand même.
Absolument.
Dans ce que j'entends, ouais, messieurs, ouais. Réaction à cette.
Non, mais c'est texture. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que on peut aussi prendre à l'inverse le livre comme une analyse du regard qu'a été porté sur les femmes pendant longtemps. Le fait qu'ils mettent des personnages féminins régulièrement, mais aussi parfois des personnages masculins, là où ça aurait dû être des femmes. Il y a une planche des tuniques bleues où on voit une femme se baigner, et c'est un gros moustachu qui est dans l'eau, et qui est aussi une question sur le désir et certainement aussi sur ce qu'il se passe quand on dessine des personnages féminins et qu'on retrouve les émotions sexuelles qu'on a pu avoir adolescent en les découvrant sur le papier. En cela, c'est très très intéressant.
Joseph Gosne ?
Je crois que c'est effectivement un livre qui parle d'abord d'un regard de lecteur, de fan, effectivement, au départ, et qui suit aussi un peu, sans doute, la trame un peu historique. C'est-à-dire que quand il redessine Jerry Spring, c'est vraiment le western classique qui sortait dans Spirou, donc un hebdomadaire destiné aux jeunes garçons, etc. Et quand il dessine vers la fin de son livre, quand il dessine Blueberry, on a passé quasiment 10, 15 ou 20 ans, et on est dans une autre époque, et le fait de mettre une femme dans Blueberry, ça signifie qu'il prend aussi acte de ce passage d'époque et acte du passage à une BD un peu plus adulte, un peu différente. Et je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas tellement de Je crois pas que la question se pose comme ça en termes de genre ou de féminin, masculin, mais beaucoup plus dans le regard même de Blutch, qui a vraiment un regard de lecteur. Ensuite, je voudrais juste dire quelque chose effectivement par rapport à ce que disait Antoine sur son trait, et je trouve qu'il a que plus il vieillit et plus son trait est beau et affirmé et précis. Je le trouve vraiment remarquable, et c'est compliqué de refaire tous ces grands là, et effectivement il arrive à trouver une unicité. Et je trouve que mieux que tout, ce qu'il arrive à trouver, c'est finalement la résolution de la question du choix. Et parce que je trouve qu'il y a une vraie question du choix et la décision dans le livre, c'est-à-dire quelle planche on reprend. Et ça, c'est pas n'importe quoi, en fait. Quand par exemple il reprend la planche de Barbarella qui fait trois cases avec Barbarella avec le robot, où finalement il la remet dans sa position de pouvoir et de force, c'est pas n'importe quelle planche, en fait. Tout comme quand il prend la planche de Blake et Mortimer, où c'est Mortimer qui est pris c'est le piège diabolique, je crois. Ce sont des planches qui sont très très marquantes et qui mettent souvent les héros un peu en difficulté, en tout cas qui questionnent leur position. Et ça, c'est ça, de ce point de vue-là, je trouve que c'est un vrai livre de cut et de décision.
Même si en même temps, et comme vous l'avez dit tous les deux, il triche et il recompose des planches à partir de
bien sûr, il triche, etc. Mais c'est un peu. Moi, j'ai l'impression de voir. Une sorte de musée imaginaire de Blutch, évidemment. Et c'est pour ça aussi que la forme me gêne. C'est-à-dire que j'aurais bien voulu en voir beaucoup plus, et sur un format un peu plus, sans doute même encore un peu plus dense que ce grand livre, qui lui donne une valeur qu'il n'a peut-être pas tant que ça.
Mais là où je suis pas complètement d'accord, c'est que la taille des planches et la taille des reproductions permet d'apprécier le trait de Blutch sans avoir besoin d'aller voir les planches exposées.
Non, tout à fait.
Je suis pas sûr qu'à la réduction, ça aurait été aussi beau.
Il faut avoir une bibliothèque.
D'en avoir davantage.
Et c'est ça que moi j'aime beaucoup, les bibliothèques où les livres sont tous de tailles différentes. On peut le ranger à côté du Blex Bolex, ça va très bien ensemble.
Ouais, il faut un écartement entre deux étagères assez important. Boris Pinault, un avis définitif sur le Blotch?
Oui, ça valait le coup d'attendre. Le Blotch est génial, c'est une fulgurance de Philippe Alberola sur Twitter. Et sinon, entre le livre de Martin Suter que vous mentionniez et l'album de Blex Bolex, Sylvie Collin souhaiterait savoir si vous accepteriez de prendre la présidence d'honneur de l'association des petits éléphants, Arnaud.
Bah évidemment, c'est avec grande joie.
Mais c'est déjà fait, non?
Bah écoutez, non, je crois que c'était pas encore tout à fait officiel, donc on a eu pas mal d'annonces de prix. Bon,
jaloux.
J'ai gaffé.
Non, mais ça y est, c'est fait. J'accepte très volontiers, non sans rappeler que Variation, l'album de Blotch, est publié chez Dargo. Et avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute, Grégoire Di Fiore nous a rejoint comme chaque soir pour nous rappeler la question d'hier et nous donner enfin sa réponse, Grégoire.
Pour quelle raison l'affiche du film Amen avait-elle fait polémique? Et la réponse était en raison de l'association de la croix chrétienne et de la croix gammée.
A gagné ce soir des DVD, une diagonale conversation avec Patrick Bouchain de Nicolas Delon et Julien Chopin, distribué par Météor. Quelle est la question?
Quel centre culturel marseillais a été pensé par l'architecte Patrick Bouchain?
Votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et surtout en profiter quand vous passez sur le site pour vous abonner au podcast de la dispute. Préparez vos commentaires plus nombreux demain pour l'émission cinéma à poster sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant, à moins que vous n'attendiez le direct pour commenter sur le compte Twitter Dispute FC. Demain, 19h en public au bar Le Bel Air à la Maison de la Radio. Dispute cinéma donc avec Lucille Como, Corinne Rondeau et Charlotte Garçon. À notre affiche, La Villa de Robert Guédiguian. Ray, l'histoire du roi, du français qui voulait devenir roi de Patagonie, Niles Atala. Et puis deux DVD, pas vraiment rien, Eraserhead et Twin Peaks, Fire Walk With Me, des coffrets Blu-ray, édités par Potemkin.